Le centre de recherche sur le risque et les crises, c'est un laboratoire de l'École des mines de Paris qui est centré sur la gestion historiquement des risques naturels, puis la sécurité industrielle, la santé, sécurité au travail. Et depuis 5 ans, mène un programme de recherche sur le programme énergie sûre. De manière générale, une grosse activité autour de l'étude du comportement individuel et collectif dans la centrale de Fukushima, et puis du développement sur la maritimisation de l'énergie, ou bien la résilience des organisations et des territoires, et ce sera la résilience des organisations que je vous parlerai aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de l'échelle sociotechnique. L'échelle sociotechnique, on va être à un niveau d'échelle, inférieur au sens du niveau de complexité de la plupart des discussions que l'on a eues jusqu'à présent. Et donc la sociotechnique, c'est un courant de recherche qui au milieu des années 60 de la sociologie des organisations qui s'est aperçu que pour comprendre le comportement de travailleurs au niveau des mines, avait besoin de prendre en compte à la fois la structure sociale de la gestion de pouvoir, la gestion de la contrôle de l'activité et aussi la dimension technique. Et ils vont donc développer des premières méthodes, c'est au Travis Stock Institute, croisant ces deux dimensions. Bien entendu, la sociologie des organisations a progressé et a augmenté la complexité de ces points de vue. Et à l'heure actuelle, on peut considérer qu'une organisation, c'est un complexe entre une structure sociale, des acteurs, des relations de pouvoir, la répartition du travail, une structure physique, donc un aménagement de l'espace physique de travail, une culture nationale, une culture individuelle, une culture d'entreprise, et puis un ensemble de technologies partant de l'objet technique, mais aussi l'ensemble des procédures et de tous les éléments qui permettent de la faire fonctionner. Et au sein d'un environnement organisationnel, l'ensemble des interdépendances nécessaires au fonctionnement de l'organisation et dans un cadre plus large, l'environnement général. Donc l'aspect montée d'échelle se faisant à l'intersection entre la structure interne et l'environnement avec la notion stratégie, on y reviendra un peu plus tard. Et puis si on redescend au niveau de l'espace de travail, on va avoir des agents, des individus, des collectifs d'individus qui vont collaborer pour pouvoir accomplir un ensemble de procédures, de tâches supervisées par des procédures pour atteindre des objectifs. Tout ça situé dans une infrastructure ou des bâtiments avec une culture individuelle, une culture de groupe, dans une culture organisationnelle, dans une culture nationale, et ils vont être en interaction avec des technologies. Et tout cet ensemble complexe peut permettre de créer de la valeur, créer des flux d'informations, de matières, mais aussi peut provoquer des catastrophes et des accidents. Alors, les catastrophes et les accidents, rapidement, on a Tenerife, à l'heure actuelle, la catastrophe aérienne qui a fait le plus de victimes, 2 avions qui vont se percuter sur un petit aéroport de Las Palmas, et qui est peut-être le premier accident technologique systémique où on a des enjeux de terrorisme, on a des enjeux de réglementation, on a des enjeux de stress, de personnes qui veulent partir. Donc on a tous ces enjeux qui vont faire en sorte que au milieu du brouillard, 2 avions vont se percuter. Three Mile Island, en 1979, un réacteur qui va fondre de 50%. Il ne va pas y avoir de victimes directes, sûrement indirectes, mais surtout ça va transformer la politique nucléaire des États-Unis qui vont décider d'arrêter le programme nucléaire et donc de retourner à la production électrique en charbon. On parle de développement durable, des enjeux de Kyoto. Cet événement-là a été un point de bascule sur les différents éléments. Je ne mets pas de valeur sur l'un et sur l'autre, c'est pas le débat. Bhopal, 3 décembre 84, on est dans une usine de chimie. C'est une usine qui appartient à un grand groupe américain qui va la développer avec des objectifs et puis qui finalement va décider de l'abandonner, et de ne plus la maintenir et va mettre un opérateur en situation. Soit j'appuie sur le bouton, on a un nuage qui sort avec une incertitude si la flamme va marcher et va annihiler la pollution. Enfin, l'aspect toxique, soit je fais exploser mon usine. Donc, il décide de faire évacuer le nuage et qui va entraîner... Alors, on parle entre 16 000 et 30 000. On est en 84, je pense qu'en 20 ans ou 30 ans après, on est sur des nombres qui sont beaucoup plus importants que ça. Challenger, la première catastrophe technologique vue en direct à la télévision et qui va qui va mettre à mal la puissance et l'idée du progrès. C'est-à-dire, c'était le symbole de la puissance, c'était le symbole de la fiabilité, c'était aussi le symbole de la routine. On est en je dirais, c'était une institutrice qui va donner un cours de l'espace. Donc on était entré sur, on passe de la du challenge, de l'aventure à une situation de routine, et cette routine, elle va être annihilée, et va montrer des notions de déni, des notions de dérive organisationnelle, et puis les premiers enjeux de sous-traitance, puisqu'on a un sous-traitant qui à lever la main en disant il ne faut pas lancer la fusée parce qu'on a des températures exceptionnellement basses, le joint ne remplira pas sa fonction, et il y a une téléconférence entre son patron, le responsable des sous-traitants, qui va faire que le feu rouge est passé en feu vert et on va lancer, parce que évidemment ce n'est jamais arrivé, ça nous arrive pas à nous, les probabilités montrent qu'il n'y a aucun risque, donc on peut lancer la navette. Tchernobyl, 26 avril 86, des enjeux de culture de sécurité. On va être sur un exercice de fonctionnement du réacteur en situation dégradée, dans un contexte de forte demande d'électricité due à une fête nationale. Et on va avoir un opérateur qui va violer des consignes de sécurité, mais de manière sans se poser de questions, dans la volonté de finir cet exercice. On est dans un contexte politique. Je ne parlerai pas de technologie, parce que ça a été, les sociétés européennes ou les sociétés occidentales ont critiqué ça, mais on est l'émergence de cette notion de culture de sécurité, de savoir quoi faire et quand faire. Piper Alpha, une plateforme pétrolière qui va exploser en mer du Nord, 167 victimes, un simple enjeu de communication, une maintenance qui est mise en place sur un dispositif, et puis des communications qui ne se font pas, et le gaz qui part et qui va entraîner l'explosion. On est plus récent, l'accident du Concorde qui va prendre feu avec une pièce métallique sur le tarmac. AZF, donc là on revient. On est, je dirais, jusqu'à présent, jusqu'à 2000, on était sur des catastrophes qui arrivaient ailleurs. Je pense que la culture française, c'était nous, on est des bons ingénieurs, on gère bien la sécurité, et puis on a le Concorde, et puis on a AZF. AZF qui a permis passer un projet de loi qui était dans les cartons depuis 10 ans et qui va entraîner les plans de prévention des risques technologiques, qui va servir de catalyseur à la mise en place de ces plans. Colombia, on est 15 ans après Challenger, on n'a pas appris. On a continué dans la dynamique du better, faster, cheaper, on en parlera après. Et on va avoir une prise de décision qui va conduire à faire rentrer la navette en situation dégradée. Texas City, on y reviendra un peu plus tard, ainsi que Deepwater Horizon et le vol Air France 447, où on a un vol d'Air France qui va tomber avec des problèmes de compréhension de la situation, de coordination de l'équipage qui va entraîner une absence de réaction. Et puis plus près de nous, Fukushima Daiichi, où un événement naturel extraordinaire va entraîner l'explosion. Et je dirais je l'évoquerai peut-être un peu après, qui a plongé un directeur de centrale et une équipe à devoir faire face à une situation impensable, qui n'avait jamais été pensée dans des conditions extrêmes, à essayer avec une pression politique et sociétale forte d'essayer de rattraper la situation et éviter une catastrophe plus importante. Et à l'heure actuelle, ces équipes sont plutôt critiquées. Je pense qu'au contraire, c'est un exemple de résilience, mais non seulement de résilience territoriale, et puis d'action dans l'imprévu. Donc il y a un cas d'étude très important pour mettre en valeur ce facteur humain. Et ça va être l'objet de mon discours, c'est-à-dire que ces éléments qu'on a discutés, c'est remettre l'individu au centre de la sécurité, ça va être le cadre de la gestion du développement de l'ingénierie de la résilience. Donc toutes ces situations, il faut qu'on arrive, pour pouvoir travailler dessus, qu'on arrive à les présenter, à les décrire. Et pour cela, se poser la question, c'est quoi une situation normale? C'est quoi une situation anormale? C'est quoi ces situations d'accident? Donc une voie pour aborder ça, c'est de considérer des situations normales, des situations de routine qui sont pas forcément idéales, qui sont pas forcément sûres, mais que l'on va considérer comme souhaitable pour la société. Et puis dans un axe de valeur des conséquences ou de la situation et de la prédictibilité, On va trouver d'autres situations. Bonne fortune, c'est le coup de peau, le coup de bol qui n'était pas prévu. Et puis finalement, on se pensait être en situation un peu de difficulté. Et puis finalement, tout va bien se mettre en place. Mais tout va bien se mettre en place par rapport à un enjeu de circonstances. La sérendipité, effectivement, on est dans de l'innovation. On est vraiment sur des situations qui sont faiblement prédictibles. C'est l'innovation par le hasard. On va avoir un progrès important par une situation qui n'était pas du tout anticipée et prévue. Et puis, il y a le bas de l'axe. Toutes ces situations que l'on considère comme non souhaitables. Et on a différents typologies pour les désigner, du quasi-accident au presque-accident, de l'incident, de l'accident, du désastre. Est-ce qu'on peut mettre les signaux faibles à l'intérieur? On a toutes ces situations-là. Toute cette description-là est culturellement dépendante. C'est-à-dire que d'un individu à une organisation, à une nation, on va considérer une situation comme normale ou comme un quasi-accident, de normal à anormal, en fonction de notre symbolique, en fonction de notre histoire, en fonction de notre expérience. Donc on parlera un peu de mise en risque par rapport de ces problèmes-là. On va mettre en risque, on va prioriser un risque plutôt qu'un autre, en fonction de différentes variables, et c'est fondamentalement choisi par les humains. Donc ces situations anormales, le but c'est de les maîtriser. Le but c'est de faire en sorte d'avoir un système qui permette que le système produisant ne dérive pas vers ces situations anormales. Un modèle de contrôle, c'est être capable de détecter la situation, de voir que quelque chose ne va pas. On l'a évoqué sur les signaux faibles, alors ça peut être un signal fort, un événement qui survient, mais ça peut être aussi une composition de signaux faibles. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les détecter et surtout de les identifier, c'est-à-dire de mettre un système causal entre tous ces éléments pour pouvoir faire un diagnostic et identifier que cette situation peut être une situation, potentielle situation anormale. On l'évalue. On l'évalue avec des échelles, on l'évalue individuellement, on l'évalue collectivement. Donc là, on a un jeu d'acteurs qui peut mettre en place, qui va, selon la culture, selon les objectifs de l'organisation, de soit accepter que la situation normale commence, soit au contraire, la rejeter et donc du coup ne pas la gérer. Puis si on l'a identifié, on a évalué qu'il fallait agir, encore faut-il savoir comment agir. Certaines situations on peut apprendre à agir et certaines situations on ne peut pas, on ne sait pas comment agir. Et si on décide comment agir, autant encore faut-il qu'on ait les ressources, les compétences, l'information, le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place les actions qui pourraient prévenir et protéger des événements. On a parlé beaucoup de temps, on va voir, on va être sur des temps de 3 minutes. Dans nos situations, la gestion temporelle, sur certaines situations, on n'est pas sur des années ou des années, on est à la minute sur la gestion des situations. Alors, on développe la notion de système de management de la sécurité. Donc, par rapport, de manière imagée, par rapport à toute situation, on va vouloir mettre en place des barrières. Donc, on va avoir un système de contrôle qui va être un ensemble d'actions consacrées à la définition, à la conception de barrières physiques. On va mettre des digues, on va mettre des murs, on va mettre des différents niveaux de protection fonctionnels, on va mettre des individus, on va mettre en place un système, un sous-système dédié à cette opération, ou bien symbolique, on en a déjà parlé, le signal rouge, les procédures, les règles, les panneaux d'information. Donc on va mettre en place tout un système socio-technique de prévention et de protection pour pouvoir empêcher la situation de survenir et puis pour minimiser ses conséquences. Et ce système de management de la sécurité, ça va être un ensemble de décisions et d'actions qui va mettre au présent en relation des éléments du passé avec des potentiels événements du futur. Donc on va être constamment en train d'élaborer des modèles, de décider avec soit des données du passé dans une projection du futur. Donc, la première action, c'est l'analyse des risques. C'est-à-dire qu'on va étudier notre système et on va identifier un ensemble de menaces, de dangers, de scénarios non souhaités. On va les mettre en risque. les mettre en risque, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'information, et cette information au niveau de la sécurité industrielle, ça va être la probabilité de survenance mise en relation avec la gravité de ces éléments, mais on va essayer de comprendre la complexité de notre système et de mettre en risque, donc de décider de traiter ou pas un ensemble de scénarios, et dès lors qu'ils sont mis en risque, de, si on le décide, de les gérer. Donc cette modélisation, cette création de causalité dépend des événements du passé, des connaissances sur le domaine, et puis on approfondira ça d'un modèle d'accident, d'un paradigme d'accident, donc d'un modèle de causalité qui va nous permettre de faire les représentations. Le deuxième point, il est beaucoup mis en avant, c'est effectivement l'apprentissage des conséquences du passé, l'investigation accidentelle, la recherche, la compréhension des situations qui sont survenues dans le passé et de la mise en place d'un modèle. Donc là, effectivement, c'est rechercher les causes et essayer de reconstituer le scénario qui a conduit à ces dommages. Donc on va travailler avec des données. On va arriver sur une scène ou on va arriver sur un cas, on va essayer d'extraire des données et en fonction de la connaissance du domaine et un modèle, un paradigme d'accident, on va se faire une représentation causale de ce qui s'est passé. Et avec cela, on va concevoir des barrières qui ont pour objectif de prévenir et protéger les accidents. Alors, la question c'est, est-ce que ce système marche ? Est-ce que avec ce cadre qui 60 ans, 70 ans de développement d'ingénieur, parce que c'est les sciences de l'ingénieur, est-ce que ça a permis de sécuriser ? Donc on peut se poser la question sur pourquoi un système est sûr ? Et je vais revenir sur une définition de Karl Popper sur la prédictibilité. La structure du monde est telle que tout événement peut être rationnellement prédit au degré de précision voulu, à condition qu'une description suffisamment précise des événements passés, ainsi que des lois de la nature, nous soit donnée. Donc ce déterminisme, si en gros on connaît notre système et on a un bon retour d'expérience, on sait pourquoi ce système a entraîné des dommages, on doit être capable de d'écrire et d'anticiper les différents scénarios. Et de ça pose une doctrine qui est un système est sûr si l'ensemble des scénarios pouvant conduire à des dommages est pris en considération par l'analyse des risques. Si les barrières techniques sont correctement conçues et scrupuleusement maintenues, si les procédures sont complètes, précises et correctes, et si les opérateurs appliquent scrupuleusement les procédures et les bonnes pratiques, et si les ressources humaines, matérielles et temporelles sont disponibles et suffisantes. Et un accident va survenir parce que les technologies et le matériel sont imparfaits, les pannes sont inévitables, les opérateurs humains ne sont pas fiables et commettent des erreurs, la complexité des organisations, la distribution peu claire de l'autorité, la divergence des finalités entre les différents niveaux hiérarchiques sont l'origine de conditions défaillantes et latentes. Et à l'heure actuelle, on impute à 80% un accident sur l'erreur humaine, donc on est dans des systèmes déterministes, on a mis en place des procédures, l'organisation a fait son travail, le système de management de la sécurité a fait son travail, si un accident survient, c'est parce que les humains ne sont pas fiables. Donc, que fait-on ? Et c'est une culture qui est la majorité de la culture des risques dans les organisations. Les humains sont la source d'infiabilité du système, sinon un accident ne pourrait pas survenir. Alors, gérer la sécurité, c'est avoir une meilleure coordination des processus, routiniser les procédures, augmenter la fiabilité des systèmes en éliminant la variabilité. Donc on va tout faire pour contraindre les degrés de liberté des opérateurs, des agents, et on va mettre en place des contrôles, des audits, des indicateurs pour être sûr de maintenir le système dans ces niveaux-là. Et puis on en a beaucoup parlé, le progrès, on va automatiser, parce que l'automate, il n'a pas de degré de liberté, l'automate, on dira, il n'a pas de cerveau, donc il ne va pas avoir tendance à essayer de ne pas respecter la tâche, de faire autre chose, ou d'être perturbé par un événement. Alors, on va questionner tout ça, et la première chose, c'est le poids des modèles. On a vu, que ce soit dans l'investigation accidentelle ou dans l'analyse des risques, une des choses qui va conditionner, c'est comment on va relier toutes les informations, comment on va faire le modèle d'accident. Et surtout, ce principe, ce qui est corrigé, ce qui est vu, et ce qui est cherché. Donc, à un moment donné, si on se dit on veut l'exhaustivité des scénarios, à un moment donné, on est des humains, donc on a une limitation au niveau de notre capacité de raisonnement, on a une capacité de traitement de nos données. Donc forcément, avoir des représentations du monde, on va avoir une expérience et généralement, on va avoir tendance à rechercher ce qu'on a déjà vécu et pas forcément aller dépasser les barrières, notamment au niveau des modèles de catastrophe. Alors, je vais passer rapidement sur l'évolution des modèles en partant de la société pré-industrielle à la seconde révolution industrielle, mais en gros jusqu'à la fin du 19e siècle, on a des systèmes industriels qui peu de composants qui ont des faibles impacts lorsqu'une défaillance survient, mais le courant de la seconde révolution industrielle, on commence à avoir des accidents, alors des événements qui entraînent des dommages. Et c'est le début de ce processus de conception d'un système de management de la sécurité. Et puis le début de la conception des méthodes. Donc on est après la Seconde Guerre mondiale et on va avoir un courant de recherche qui vient de l'industrie pour développer des méthodes, des outils, des pratiques permettant de commencer à essayer de maîtriser ces situations. Donc on parle de la sûreté de fonctionnement, les notions de fiabilité, de disponibilité. On parle de l'AMDEC, de l'APR, de l'ASOP, donc des méthodes d'ingénieurs permettant de faire des scénarios, de les représenter et puis de décider en fonction des éléments. Et le point principal, c'est les défaillances techniques. Donc à cette époque-là, la cible, c'est de prévenir les défaillances techniques et les méthodes ont été développées dans ce cadre-là. Donc un accident à cette époque-là, c'est une série d'événements, de circonstances qui surviennent dans un ordre spécifique et reconnaissable. Donc on a une chaîne linéaire et puis à un moment donné, on va bifurquer. On va avoir une cause, on va avoir un événement, on va avoir une défaillance qui va faire que d'un scénario qui a été celui qui était prévu, on va aller vers l'accident. On est sur le domaine du domino, donc on va avoir un ensemble d'éléments qui vont se mettre en route. Qui vont gérer. Et l'idée, c'est d'arriver à les identifier, à les éliminer. On va avancer, puis on est dans les années 70-80, l'humain revient au centre, donc c'est l'erreur humaine que l'on va chercher. Donc on va faire des typologies, on va appliquer une approche d'ingénieur avec l'erreur humaine, on va faire des outils, des méthodes, essayer d'identifier des probabilités de défaillance. Donc on va appliquer l'arsenal d'ingénierie qui était, à mon sens, valable pour les systèmes techniques, mais qui est discutable sur la notion humaine. Et puis surtout après sur l'aspect organisationnel, on est dans le better, faster, cheaper, on a les catastrophes que j'ai présentées et on a une prise en compte de la complexité de ces événements-là. Et on va avoir une autre approche, ça va être les conditions latentes, une nouvelle dimension qui va se rajouter, c'est-à-dire que l'accident est à la fois dû sur un scénario ou une chaîne causale, mais aussi un ensemble de conditions qui vont les favoriser. Le modèle, c'est le modèle du fromage suisse qui est utilisé de manière importante. On est en 2017, on est sur les systèmes socio-techniques complexes, on a discuté de la révolution numérique. La question, c'est est-ce que ces modèles permettent de représenter la complexité de nos accidents et permettent de concevoir des barrières pour pouvoir les gérer. Et du coup, se positionne cette notion d'imprévisible. On va avoir cette discussion d'essayer d'introduire l'imprévu. Et l'imprévisible, un événement fortuit qui déclenche une rupture de trajectoire et qui ouvre un espace d'opportunité, va être une composition entre moments prévisibles ou imprévisibles et conséquences prévisibles ou conséquences imprévisibles. Bien sûr, quand on parle de catastrophe, on peut avoir des conséquences prévisibles, c'est le risque. Le risque, on a identifié, on a mis en risque un scénario, on a des conséquences prévisibles. Ce qui n'est pas prévisible, c'est le moment où cela surviendra. Donc d'où la notion de préparation. Et puis on a ces scénarios où on n'a ni les moments, ni les conséquences sont imprévisibles. Mais là, on est au niveau de la crise, de la catastrophe, de l'événement non anticipé. Un autre élément qui a induit à cette rupture de ce déterminisme, la conséquence inattendue du changement, donc Merton en 36, qu'on va avoir une décision ou une action qui effectivement peut marcher mais qui peut entraîner des effets négatifs et puis on peut avoir aussi l'effet pervers, c'est qu'on va mettre en place un ensemble d'actions avec des objectifs initiaux de valeur mais qui finalement vont se retourner et on va avoir des conséquences qui sont à l'opposé de ce qui avait été prévu. L'écologie de l'action, Edgar Morin, effectivement, on va dès lors que l'on lance une action, on la perd dans la complexité, elle va interagir dans un environnement et on peut avoir on peut perdre le contrôle dessus et on peut avoir des effets à court long terme qui sont imprédictibles. Alors, du coup, ça questionne ce cadre du management de la sécurité et du coup, ça questionne la définition des situations. Alors, l'idée, c'est d'essayer de raffiner les situations, et on va aborder la notion de situation anormale régulière. C'est des situations qui surviennent avec une fréquence telle qu'on peut apprendre à y répondre. C'est les risques, c'est les dangers que l'on met en risque. Elles surviennent régulièrement, donc on peut mettre en place des procédures, on peut mettre en place de la formation, on peut mettre en place des exercices. Et puis, il y a les situations anormales irrégulières, des situations qui sont connues, mais qui surviennent avec une fréquence faible et pour lesquelles il est pratiquement impossible de définir une réponse standard. Et puis, il y a la situation anormale exceptionnelle, situation soudaine, ambiguë, volatile, complexe, qu'il est virtuellement impossible d'imaginer et qui dépasse l'expérience collective de l'organisation. Même si après coup, on nous explique que c'était prévisible et qu'on aurait pu faire quelque chose. Donc, si on reprend notre modèle, on a nos situations régulières pour lesquelles on fait des barrières. Ces barrières, si elles sont bien maintenues, elles sont appropriées, elles sont efficaces, on doit être bon. Et puis, on a les situations régulières pour lesquelles les barrières soit sont inappropriées, soit qui sont inefficaces, qui vont ne pas marcher, le capteur qui ne va pas indiquer la bonne information, etc. On a les situations irrégulières, donc on n'a pas de barrière, on l'a pas prévu. Et puis, il y a la situation sans précédent. Si on suppose qu'une catastrophe survient, si on est dans ce type de situation, on aurait des situations souvent. Et l'hypothèse, c'est que on a des collectifs d'acteurs, on a des individus qui font que ces situations ne surviennent pas. On n'obtient pas des dommages et qui ont un comportement qui permettent de gérer ce type de situation. Malheureusement, ils ont un seuil de fonctionnement. Donc, on va avoir des dommages. Associé à ces dommages, on va avoir du retour d'expérience qui va surtout viser l'imputation de la responsabilité de l'action et des effets. Et comme je l'ai signalé, c'est généralement l'opérateur de première ligne qui va être sanctionné parce qu'on va chercher l'erreur humaine, le non-respect de la procédure. Donc, on voit par rapport à ce schéma-là qu'on a un ensemble de potentiels paradoxes. Le premier, c'est que pour les risques, gérer les risques, ça nécessite de contraindre le comportement et la liberté des acteurs. Pour pouvoir gérer les situations qui nécessitent une adaptation, de fonctionner à la limite du cadre ou du hors-cadre, on va avoir besoin de degrés de liberté et développer systématiquement de contraindre les acteurs et de leur développer les degrés de liberté. On est sur deux logiques d'action contradictoires pour lesquelles, en termes de management, il est difficile de trouver le compromis. On a un écart entre, d'un côté, la complexité des situations et puis de l'autre, la simplicité du cadre juridique d'imputation de la responsabilité. On est la causalité directe. Je fais une action qui va entraîner un dommage, donc je suis responsable en prenant peu ou pas le cadre direct. Et puis, effectivement, la recherche de causalité, on apprend de ce qui s'est mal passé. La question, c'est est-ce que apprendre de ce qui s'est mal passé permet de comprendre pourquoi et développer la capacité à s'adapter à l'imprévu. Est-ce que savoir parce qu'il y a une défaillance ou un non-fonctionnement nous permet de nous adapter aux situations qui ne sont pas prévues? Donc on a un ensemble de contradictions à ce niveau-là. Et donc l'ingénierie de la résilience, donc on a l'application du contexte de résilience dans ce contexte-là. Donc on a deux exemples de définition. Une définition qui vise à avoir le stress et la gestion du choc. Et puis une définition qui est plus sur la notion du hors-cadre. Donc on retrouve les mêmes débats que l'on a vu. Est-ce qu'on considère toute la variabilité des situations vis-à-vis de la résilience, ou est-ce que la résilience est uniquement appliquée quand le système fonctionne à la limite de son modèle de compétences ou hors de son modèle de compétences? Et ce cadre-là, donc ces différents types de situations invitent à re-questionner les pratiques classiques de la gestion des risques, notamment l'apprentissage, le retour d'expérience. En se posant la question, c'est est-ce que apprendre uniquement des situations pour lesquelles on a eu un incident suffit à développer la capacité totale du système à faire face aux situations? Donc le positionnement, c'est de dire forcément non, c'est nécessaire, mais pour comprendre pourquoi un système on est capable de s'adapter ou pour développer cette capacité à s'adapter, il faut connaître comment le système fonctionne. Pourquoi le système fonctionne? Et le système fonctionne non pas parce que les procédures sont respectées, le système fonctionne parce que il y a un ensemble de mécanismes individuels collectifs qui font que le système est sous contrôle. Discuter aussi les indicateurs. Si les indicateurs, on est uniquement sur le taux de défaillance, le taux de d'incident, le taux d'accident, est-ce qu'on est capable de se projeter dans le futur et détecter que le système a dévié? Donc réfléchir à des indicateurs sur le fonctionnement du système pour ne pas focaliser les décisions de changement de la sécurité uniquement sur l'évolution de la défaillance, mais en fonction de la connaissance du système. Et puis l'anticipation, le changement qui est devenu la routine dans les organisations peut affecter la gestion des risques. Donc de relier gestion des risques, gestion du changement pour pouvoir assurer. Il y a un secteur industriel qui le fait, c'est le ferroviaire, où on a un cadre réglementaire qui est mis en place, mais le nucléaire est en train d'y aller, mais c'est des fonctions qui sont peu ou prou présentes dans les organisations hors du ferroviaire. Alors, je vais aller dans la résilience, il me reste une dizaine de minutes. Donc, voilà le contexte, en gros, au niveau de la gestion de la sécurité industrielle, et ça me permet de revenir sur la notion de résilience et d'essayer d'avancer sur cette approche-là. Pour être résilient, un système doit être exposé à des menaces significatives ou à une adversité sévère, réussir à s'adapter malgré les conditions négatives. Cette idée-là, c'est qu'on ne peut pas aborder la résilience d'un système s'il n'y a pas un environnement et s'il n'y a pas un choc ou une tendance sur le temps long, mais on doit avoir cette intersection entre ces différents éléments, tout en sachant que le processus d'adaptation impacte son environnement. Être résilient a un coût. Être résilient, développer la résilience a un coût. Les mécanismes ont aussi un coût sur l'environnement, c'est-à-dire qu'un système qui va entrer en résilience par rapport à une situation va forcément prendre des ressources, va forcément provoquer des dommages dans son environnement. Ça veut dire que, alors ça peut être une réflexion sur le niveau d'échelle, être résilient d'un niveau d'échelle à l'autre peut avoir des impacts, mais aussi sur, on est en réseau, un élément du réseau va entrer en résilience, va prendre des ressources supplémentaires, va donc mettre en vulnérabilité les autres éléments du réseau. La résilience est associée à la complexité, à la non-linéarité, on en a bien parlé, mais surtout la prise en compte des conséquences inattendues et des effets pervers des décisions et des actions. Renforcer la sécurité peut engendrer de nouvelles sources d'insécurité. Alors là, je suis dans le milieu sécuritaire, mais mettre en place des actions qui sont prises indépendamment des unes des autres ont de la valeur, mais peuvent entraîner des vulnérabilités. Puis pas de consensus sur une définition commune, je pense que ça on le partage, c'est un processus, c'est les propriétés du système, c'est une dynamique de développement, ça peut être un résultat, ça peut être l'ensemble de ses caractéristiques. Ça peut être les caractéristiques d'un sujet ou bien les relations du sujet avec son environnement. Donc on voit qu'on a une diversité des points de vue. Je vais passer sur ce point-là. Une question, c'est est-ce que au niveau scientifique on a besoin de la pensée de la résilience ? C'est de dire, effectivement, toute la complexité des éléments. Et en revenant sur la pensée complexe, effectivement, on positionne la résilience comme une opérationnalisation ou nécessitant la résilience. C'est-à-dire, effectivement, cette pensée résilience qui pose la boucle tétralogique, le système, l'ordre, le désordre, l'organisation, les interactions, et puis tout un ensemble d'arsenal permettant d'aborder les paradoxes, les complexités. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus ou est-ce qu'on a besoin de développer une nouvelle théorie de la résilience? Et surtout que quand elle est appliquée à la notion de crise au sens du moment du diagnostic, du processus incertain, où on voit l'innommable, on voit les défaillances ou la béance du savoir et de la société face à l'événement, avec les notions de perturbation, de surcharge de l'activité auxquelles on ne peut plus faire face, de ces blocages, de ces double binds, de défaillance dans l'homéostasie, donc du système de contrôle qui n'est plus capable de maîtriser le système, du dérèglement, donc les règles, l'ordre n'est plus capable de gérer la situation, donc on doit aller au-delà de la règle, des feedbacks positifs qui vont entretenir et amplifier les perturbations, et avec cette notion de, on va rechercher des réponses, donc d'improviser face à la situation, dans un premier temps des réponses d'ingénierie, si on a le temps, et puis d'appeler aux solutions mythiques, au magique, à l'imaginaire, au mystique, pour pouvoir dépasser cette solution, cette situation où on a perdu tous les repères et pour lesquels il faut qu'on reprenne les éléments. Avec ces notions de changement progressif et régressif qui entraînent l'évolution à long terme. Donc je dirais la pensée complexe impliquée à la crise, pour moi, contient déjà tout l'arsenal permettant de le faire. On peut mettre que la résilience, c'est uniquement, c'est s'orienter uniquement sur le succès, mais je dirais réfléchir à une autre pensée de la résilience. Je dirais on a déjà les éléments pour le faire. Aborder un système, aborder une problématique uniquement en disant je développe la résilience, pour moi ça n'a aucun sens. C'est alors peut-être dans le, je dirais, dans, on a beaucoup parlé de marketing scientifique ou autre, mais si on veut poser un problème en résilience, si on veut vraiment poser les enjeux, on doit avoir ces quatre éléments, et ça a déjà été présenté. Et puis en voyant la diversité, la résilience, c'est un ensemble d'éléments. Et puis les systèmes, ça part du système technique, des individus, du système socio-technique, des groupes, des organisations, des réseaux, des territoires, des systèmes socio-écologiques. J'ai oublié de mettre la famille. Mais je veux dire, on a ces niveaux d'échelle. Et ces niveaux d'échelle, ils doivent être imbriqués et on doit voir s'il y a une cohérence. À quoi, effectivement, est-ce qu'on est sur la variabilité normale du système ou si on est sur l'événement traumatique? Et puis surtout le pourquoi. Quels sont les facteurs qui vont nous dire qu'on a été résilient? Est-ce que parce qu'on a augmenté la sécurité? Est-ce qu'on a diminué les degrés de liberté? Est-ce qu'on a augmenté la productivité? Est-ce que c'est un enjeu de qualité, de ponctualité ou d'autres éléments? Donc en fait, en fonction des critères de jugement de valeur, on dira qu'un système a été résilient ou ne l'est pas. Donc on doit forcément positionner cet élément. Et puis on doit agir. Le premier point, c'est comprendre la résilience. À l'heure actuelle, on a très peu d'études permettant de décrire les mécanismes intervenant dans la résilience. On a très peu de facteurs nous permettant de mettre en lumière des mécanismes individuels, collectifs, organisationnels, permettant de dire effectivement on améliore la résilience. Je vais malheureusement passer sur le cas de Lutzen. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais en gros, le cas d'un risque connu, hein, on va un avion qui va être percuté par un nuage de bernache du Canada, on va perdre tous les moteurs et le pilote va décider d'amerrir sur l'Hudson en s'apercevant rapidement que les procédures sont pas applicables et malgré les différentes propositions qui lui sont faites. Donc rapidement, ce qui s'est passé au niveau, je dirais, humain, c'est qu'on a une première phase de déni. Je peux pas croire que cela m'arrive à moi, ça ne peut pas m'arriver. Au niveau du contrôleur, je lui ai demandé de répéter, même si je pensais avoir bien entendu, je n'arrivais pas à accepter les mots. Donc on a ces situations où l'impensable arrive. Donc on a ce temps où il faut qu'on comprenne qu'on n'est plus dans une situation normale et que la situation pour laquelle on pensait être, on pensait ne jamais devoir faire face ou que la société nous disait que jamais cela n'arriverait, elle est là. Et dès lors, il faut commencer à agir et de trouver des situations. Je vais rapidement arriver sur les leçons. C'est, on a un pilote et un copilote expérimentés, des compétences techniques et non techniques mises en œuvre parfaitement, des enjeux de conscience de la situation, de communication qui sont faits de manière parfaite. Une procédure non complète. Et les institutions disent, si en gros l'avion s'était écrasé, on n'aurait pas vu que la procédure ne marchait pas, puisqu'en gros la procédure nécessitait 2000 mètres d'altitude, on était à 800 mètres. Donc en gros, là ils en sont aperçus parce que il y a eu un retour d'expérience du pilote qui dit, on était à 800 mètres, donc la procédure ne marchait pas. Si l'avion s'était écrasé, c'était non application de la procédure et ils n'auraient pas vu que la procédure. Et ça, c'est les enquêteurs qui le disent, c'est pas moi. Et une mise en accusation de l'équipage pour faute, parce qu'effectivement, on a les assurances, on a perdu un avion, on a perdu des bagages, donc on va se retourner contre le pilote. Et il va leur démontrer qu'il ne pouvait pas atterrir. Et il s'est battu contre une équipe qui ont fait des simulations. Et dans le film, il montre, c'est que le fait de dire qu'au niveau du simulateur, ils ont dû s'y prendre à 12 fois pour arriver à réussir, ça a permis de dédouaner le pilote. Lui est arrivé sur la première fois. Le problème, c'est que c'est un pilote ancien militaire qui vole sur planeur. Au niveau du retour d'expérience, est-ce qu'on doit mettre que des pilotes qui ont fait l'Air Force et qui sont aux pilotes d'avion? Donc effectivement, on se pose la question aussi de comment apprendre de ces situations du passé. Mesurer la résilience, on en a débattu. Effectivement, mesurer la résilience, si on ne considère pas l'ensemble des éléments, de qui, de quoi et pourquoi, et si on est encore à devoir valider et vérifier les indicateurs, ce qui a été bien décrit dans les premières sessions. Développer la résilience, qu'est-ce qui, je dirais, dans les boîtes à outils, comment ces boîtes à outils sont venues. On a très peu de connaissances sur pourquoi le système est résilient et on a des boîtes à outils qui arrivent. Donc effectivement, ces boîtes à outils, quelles sont leurs validités, sur quoi elles vont intervenir. Est-ce que concrètement, elles vont remplir leurs fonctions? Et on n'oublie pas l'écologie de l'action, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des recettes qui vont pouvoir entraîner des situations qui peuvent avoir un effet pervers. Je dirais un dernier mot sur préserver la résilience. On est dans un monde de changement, on est dans un monde d'innovation. À un instant donné, on peut développer la résilience, mais toute innovation, tout développement peut venir enlever des ressources, peut venir affecter l'aspect résilience. Je vais passer sur le deuxième cas d'étude. Où en gros, on a donc BP, j'en ai déjà parlé. En même temps, on a quelqu'un qui, au niveau managérial, sur l'aspect gestion stratégique de l'organisation, sur l'aspect développement et le modèle à suivre, manager de l'année, chevalier, Financial Times, l'homme de la Renaissance, le roi soleil de l'industrie pétrolière. Effectivement, il avait donné 20 millions de dollars. Il avait accepté qu'il y avait un impact du pétrole sur l'industrie pétrolière, sur le réchauffement climatique, mais il a donné 20 millions de dollars. 20 millions de dollars par rapport à BP, mais ça a fait The Oil Mine with the Conscience. Et en même temps que ça, More for Less, organisation d'activités par des unités qui changent rapidement, financiarisation, augmentation des accidents, amende pour non-conformité, sentiment de peur des travailleurs. Donc on voit, je dirais, un modèle de résilience sur l'aspect financiarisation, retour d'investissement sur les actionnaires, sur l'aspect développement des entreprises, que BP était la plus faible des majors et à un moment donné est devenue une des majors puissantes. Donc sur l'aspect, je dirais, business, c'est l'exemple à suivre. Mais de l'autre, au niveau individuel, on a des morts réguliers. Je vais passer rapidement là-dessus, mais je veux dire, surtout dans la préservation de la résilience, on voit qu'on a un conflit entre la gestion stratégique, la gestion du changement et la gestion de la sécurité. Et on doit arriver à trouver le bon compromis. Effectivement, on se pose la question de détruire la résilience par rapport à des enjeux d'éthique, d'enjeux d'immoralité. Quels sont ces enjeux de destruction de la résilience? Et éthique de la résilience, effectivement, on est chercheur avec conscience, sens avec conscience, développer, se poser la question, mettre en place un plan de résilience doit forcément nécessiter une éthique personnelle, une éthique collective sur est-ce que ce que l'on fait va dans le bon sens. Et dès lors qu'on est, la résilience, c'est pas simple, c'est que des compromis entre développer des degrés de liberté et restreindre l'activité. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place de procédures, mais pour faire face à un ensemble de situations, il faut un cadre, il faut des procédures, et il faut à la fois développer des degrés de liberté. Donc, c'est que des contradictions, des niveaux de complexité, donc par conséquent, il faut un niveau d'éthique appliqué. Et c'est ma conclusion. Qu'est-ce qu'une résilience studies? Est-ce que on est interdisciplinaire, donc forcément on doit être dans la studies, on est indépendant des disciplines. Donc étude de situation de résilience, c'est un champ de recherche interdisciplinaire qui étudie la situation de résilience, l'expérience vécue par les acteurs et les sens donnés à la situation. On doit vraiment, si on remet l'humain au centre, c'est effectivement aller à la compréhension de ces événements-là. Développer, préserver ou détruire la résilience, on a une démarche d'ingénierie où on est encore au début du chemin, de comprendre, de concevoir qu'est-ce qui va permettre de développer, de modifier, de faire évoluer les pratiques actuelles pour prendre en compte la complexité de la résilience. Et la troisième étape, on ne marchera pas si on ne l'a pas, c'est la création de valeur de la résilience. Une fois qu'on aura ces éléments, c'est comment créer la valeur pour transformer d'une invention qui peut rester au niveau de prototype ou de publication à une innovation, donc qui sera prise par la société et qui permettra de faire les développements. J'ai dépassé légèrement mon temps, mais je vous remercie.